Un bon boulot, témoignage et discussion sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier et épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Laurine Boyer et Antonio Lemus ont en commun de travailler à la cantine numérique, un espace de coworking brestois. La cantine revendique aussi d'être un tiers-lieu qui propose, en plus de la mise à disposition d'espaces de travail, divers espaces de vie, une cuisine, des salles de réunion et de conférences, et des activités aussi diverses que des soirées à thème, des tables rondes, des code camps, de la production de podcasts radio, des randonnées pédestres, mais aussi des nettoyages de printemps, je l'ai vu à l'agenda. Dans un premier temps, nous allons retracer le parcours professionnel de Laurine et d'Antonio. Dans un deuxième temps, ils nous raconteront les raisons pour lesquelles ils sont venus travailler à la cantine numérique et ce qu'ils y font. Bonjour Laurine, bonjour Antonio.
Bonjour Hervé.
Bonjour, bonjour.
On va commencer par peut-être vous présenter rapidement, parce que vos métiers sont complexes, je dirais. Présentation rapide, professionnelle, de Laurine d'abord.
Oui. Alors, je suis consultante et je travaille pour une société de conseil qui est spécialisée dans l'industrie médicale et j'aide en fait les entreprises ou autres entités dans le médical sur tout ce qui est qualité et réglementation. Donc, pour essayer de résumer, je les aide à mettre leurs produits sur le marché.
D'accord, merci. Ouais. Antonio ?
Oui, bonjour. Vraiment bonjour. Et moi, je suis consultante financière. Mais la particularité, c'est que ma boîte, elle n'est pas ici à Brest, elle n'est pas en France, elle est au Chili. Parce que je suis chilien, bon, naturalisé français après, mais et mes clients sont tous au Chili, sont des banques, et alors je travaille à distance.
Et tu travailles sur le risque financier, la modélisation?
Tout à fait, ça c'est plutôt plus spécifiquement qu'est-ce que j'ai fait. Ouais.
D'accord. Bien, bon, on va creuser tout ça parce que tu as aussi travaillé en plus, donc je le dis maintenant, l'OMC, le FMI, non, l'OCDE et l'UFE.
Ouais.
Bref, on va en parler, mais on va commencer par la genèse. Comment on devient expert financier, comment on devient expert en processus industriel, en normalisation de dispositifs médicaux. Ce qui est pas mal, peut-être, c'est de partir depuis le début dans le supérieur, dans les études supérieures, ou le choix déjà, et puis après, comment ça se passe, et aller jusqu'à le premier boulot. Donc, c'est un petit peu long. Mais... Donc, je passe la parole à Laurine.
Voilà, Laurine. Ouais, on va essayer de résumer. alors, moi, ça a commencé déjà depuis le lycée où j'aimais bien tout ce qui était biologie humaine et physique. Et les études de médecine me faisaient trop peur sur la première année, le nombre d'années d'études. Et donc, à partir de là, je suis partie en classe préparatoire, donc BCPST, ou on dit souvent la prépa bio, pour garder justement tout ce qui était SVT et physique-chimie. Donc, j'y suis partie donc 2 ans en classe préparatoire à Nantes, au lycée Clémenceau, pour ne pas le citer. Et ensuite, du coup, j'ai découvert...
Peut-être un mot sur la classe préparatoire qui est réputée un peu, on appelle ça des taupes. C'est le boulot, c'est très difficile.
C'est difficile, Ouais. Non, c'est vraiment beaucoup de travail. J'admets que j'avais des facilités au lycée. Là, ça ne servait pas, les facilités. Enfin, il fallait beaucoup travailler. Ça m'a pris un trimestre pour apprendre vraiment à travailler. Et là, c'est tous les soirs, tous les week-ends, les vacances. Enfin, c'est... Non, c'est dur. Il y avait contrôle toutes les semaines, l'école toutes les semaines.
C'est supportable quand on a 18-20 ans hein.
Alors, heureusement pour moi, là où j'étais, j'étais en internat et il y avait une super ambiance, pour le coup, entre nous, etc. Donc oui, ça a été supportable, mais je ne dis pas que ça a été rose tous les jours.
D'accord.
Et donc, c'est en prépa que, en regardant toutes les écoles que je pouvais avoir, donc notamment, il y avait bien sûr ceux qui veulent faire les écoles vétérinaires et les écoles d'agronomie. Moi, ça ne m'intéressait pas, donc j'ai cherché. Et là, je suis tombée sur ce qu'on appelle les écoles d'ingénieurs qui sont dans le génie biomédical. Et révélation, en fait, c'était ça que je voulais faire. Donc, du coup, j'ai passé le concours. Voilà. J'ai été reçue donc, ça s'appelle donc, l'école d'ingénieurs à Besançon, qui s'appelle l'ISIFC et qui est spécialisée donc, dans le génie biomédical.
D'accord. Et peut-être on peut aller jusqu'au premier boulot qui était donc.
Alors, je suis arrivée fin des études après 3 ans. Donc, première recherche d'emploi. Et là, j'ai postulé un petit peu partout. Comme j'avais grandi à Châteaulin, je voulais à peu près revenir dans le coin.
Tu voulais un travail à Châteaulin?
Non, pas spécialement, mais voilà, rapproché de la famille, du copain. Voilà. Donc, j'ai trouvé à Rennes, enfin à Bru exactement, dans une société qui fabriquait des implants pour la chirurgie de la main et du pied.
Des pièces qu'on met dans la main pour la faire marcher après un accident
Notamment, alors par exemple, pour le pied, ça peut être des formations, par exemple, des allus valgus, où du coup, le gros orteil est déformé, donc on vient le remettre, et en effet, pour la main, pour tout ce qui était doigts tordus ou autre, voilà, il y avait des plaques, des vis, ce genre de choses.
D'accord. Donc, Antonio, là, on va être au Chili... Il y a un bon moment. Enfin, il y a un bon moment. Donc là, je précise que Laurine a 36 ans, c'est ça?
C'est ça.
Et 47 pour Antonio.
Oui, tout à fait. Bon, au lycée, à l'époque, les seules choses que je savais, c'est que j'étais doué pour les maths. J'étais doué pour des autres choses, mais c'était les maths qui m'attiraient l'attention.
D'accord. Physique aussi, peut-être?
Oui, un peu physique, mais plutôt les maths. Et alors, ça m'a amené. J'étais un bon élève à l'époque. Hein. Bon, toujours.
Ça ne se perd pas.
Un peu nerd, quand même. Mais. Et j'ai choisi de faire l'école d'ingénieur. Et j'ai fait l'école d'ingénieur à l'université du Chili. C'est un peu l'équivalent à l'école polytechnique.
Ça veut dire c'est une école généraliste, comme polytechnique ou les mines. C'est très généraliste.
Oui, ouais, tout à fait.
Et d'ailleurs, les ingénieurs, ils ne deviennent pas ingénieurs, ils deviennent financiers.
Non, moi, après, c'était au tout début, oui, c'est généraliste. Mais après, il y a des... En troisième année, on choisit quoi faire. Si c'est l'ingénierie mathématique, électrique, industrielle, voilà. Et moi, j'ai choisi plutôt les côtés industriels, qui c'était plus lié à la finance, qui c'est l'économie, qui c'est les domaines que j'ai pris après. Et ça, c'était long, hein, déjà, 5-6 ans. Et après, tout de suite, je fais un master en économie. Et
d'accord.
Voilà, et c'est ça que j'ai un peu... Ça m'a amené dans les domaines de l'économie.
Et pourquoi tu as choisi de... Après Polytechnique, tu aurais pu aller directement travailler où tu voulais?
Oui, parce que les choses, c'est que... Je n'avais pas d'urgence de
Tu n'avais pas d'urgence? Tu étais bien chez tes parents?
Exactement, c'était sympa. J'avais des bons potes à l'époque. Non, c'est que... Je ne sais pas, c'est une chose que je me ressentis que c'était sympa de faire tout de suite des études d'économie. Voilà. Et mon premier boulot, c'était lié aux finances internationales, au commerce international, en fait.
Au
ministère de Finances de Chili.
D'accord.
Le ministère de Finances de Chili.
Buenos Aires, c'est l'Argentine. Le Chili,
c'est Santiago. la capitale, c'est Santiago. Ouais. Non, je suis né en Santiago, toute ma vie à Santiago, voilà.
Et ton premier travail a été là-bas.
Ouais. Et là-bas, et j'ai eu la chance de trouver une ambiance très sympa, vraiment exigeante, parce que moi, franchement, moi j'aime bien, je veux apprendre. Je m'ennuie ici, je n'apprends pas dans les travails que j'ai.
D'accord, ouais. Donc,
et alors, ça c'était un peu une fenêtre d'opportunité parce que c'était mon premier voyage à l'étranger et j'ai rencontré des gens très intéressants et spécialement une personne que mais.
Non, mais tu disais que tu travaillais à Santiago, tu n'étais pas à l'étranger.
Ouais, non, pas à l'étranger, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages.
Après, ouais,
À l'époque, c'était presque un voyage par mois.
Ah oui, dans le cas de ta fonction, tu faisais un voyage par mois, ouais, d'accord. Ouais.
Oui, parce que mon rôle, c'était un peu des, pas consultant, mais advisor. Je sais pas, il me manque de vocabulaire de fois.
Advice, et conseil.
Advice, des conseillers internationaux.
D'accord.
Alors, c'était une équipe de 5 personnes. Et mon chef, c'était un conseiller direct de ministre des Finances dans les domaines internationaux.
C'est-à-dire, tu donnes des conseils à qui à l'État chilien pour oui, les relations avec les relations financières avec d'autres pays.
Tout à fait, tout à fait.
D'accord. Donc, par exemple, la crédibilité financière d'un autre pays ou...
Non. C'était lié plus qu'à la finance internationale, c'était au commerce international. Ça veut dire qu'on a fait tout ce qui est les traités des livres-échanges et qui sont bilatérales ou multilatérales. C'était le domaine à l'époque. Et alors, c'est pour ça que je fais des voyages. À l'époque, le Chili, il a signé beaucoup des traités de libre-échange avec plusieurs pays et il y a des négociateurs. J'étais partie de l'équipe des négociateurs. Voilà.
D'accord.
Et ça, c'est ce qui m'a amené à prendre l'avion presque chaque mois.
Et à connaître peut-être les domaines dans lesquels le commerce se fait?
Oui, un petit peu, oui. C'était des réunions à l'ONC, en Suisse. Il y avait des réunions en Chine, en Nouvelle-Zélande. Partout dans le monde, oui.
D'accord.
Oui.
Bon, maintenant, on va aborder plus en détail les compétences, les métiers. Et on peut partir du... Je me retourne vers Laurine. On peut partir peut-être du premier travail que tu as fait, donc travailler sur des implants, là, donc pour les mains et les pieds. Peut-être détailler ce travail que tu faisais,
oui. Oui, pas de souci. Du coup, j'étais ingénieur qualité. Donc, je travaillais au sein de l'entreprise dans l'équipe qualité. Et donc, la qualité, en gros, il y a une norme pour les dispositifs médicaux. Et donc, il faut mettre un système de management de la qualité en place. Donc, c'est au niveau de l'organisation de la société. Et moi, je gérais notamment tout ce qui était changement. C'est-à-dire demande de modification, que ce soit sur les produits, sur les process ou quoi, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais une modification de code sur un plan, ça a des conséquences sur le contrôle qualité.
Non, de code sur un plan de...
Par exemple, l'implant, la R&D avait besoin de changer des fois les cotes en disant une tolérance qui passe.
Ah oui, les pièces qu'on va mettre dans le corps humain.
Voilà, oui, c'est ça, sur les implants.
Faut être précis là, ouais.
Et donc, du coup, ce genre d'impact, en fait, j'étais là pour manager un petit peu les changements, pour les suivre, vérifier avec toutes les équipes, parce que ce n'est pas moi en soi qui faisais les analyses d'impact, mais j'allais voir justement les différents services pour voir qu'est-ce que ça impactait aussi sur tel ou tel service. Voilà, qu'est-ce qui se passe en production, qu'est-ce qui se passe au contrôle qualité, qu'est-ce qui se passe des pièces en stock aussi, est-ce que ça change ou pas? Alors, la plupart du temps, c'était non. Mais voilà, l'idée, c'était la gestion des modifications, en fait, au sein du système qualité.
Et pour cela, si j'avais bien compris la dernière fois, tu te réfères à une norme?
C'est ça. C'est dans les dispositifs médicaux. Donc, la norme sur le système qualité, c'est l'ISO 13485. Et elle est tirée de l'ISO 9001. qui est la norme sur la qualité en règle générale. Il y a beaucoup de sociétés qui peuvent être ISO 9001, des sociétés de déménagement, ou alors moi, ma société qui s'appelle Capsicom, on est aussi ISO 9001. Enfin voilà, c'est la qualité au sens large du terme.
Peut-être un peu plus loin, on peut dire quoi, une démarche qualité en suivant donc ces normes ISO 9001, c'est une description des process, de la documentation qu'il faut fournir.
Voilà, alors en fait, la norme explique du moins ce qu'elle attend en termes de documentation. Elle veut avoir telle procédure, et il va falloir documenter telle ou telle preuve, mais elle ne dira jamais comment il faut le faire. Et c'est là où il y a une certaine liberté qui, parfois, peut un peu bloquer les gens en se disant « mais comment je peux mettre ça en place ?» Et la norme ne le dit pas. Enfin, les normes sur les systèmes qualité ne disent pas ce genre de choses, en fait. Mais oui, du coup, elle va imposer certaines choses d'un point de vue aussi documentaire. Et c'est vraiment transverse à l'entreprise. Il y a des responsabilités sur la direction. Donc, il y en a sur la production, la conception et le développement, sur la gestion des réclamations, par exemple, une fois que un produit ou un service est sur le marché. Enfin, voilà, c'est vraiment global, en fait.
D'accord. On va se retourner vers Antonio, parce que le métier, donc, ce que tu as dit, c'est tu travailles pour un État, l'État chilien, et sur les accords bilatéraux ou multilatéraux peut-être, sur la question de la finance, comment, est-ce qu'on peut aller plus dans le détail des matières dont on parle, de la façon dont ça se passe, de tes objectifs ou de l'objectif de ton état, comment tu t'y prends, comment tu t'accordes peut-être même avec ces objectifs ou difficilement, je ne sais pas, ou tu fais simplement ton travail, bon, je ne sais pas.
Et oui, au tout début, je suis arrivé là-bas parce que bon, j'avais le bon profil.
Oui, là, tu avais 25 ans peut-être.
Hein. Oui, 25 ans. Et les choses, c'est que
et comment tu apprends, excuse-moi, comment tu apprends, comment tu rentres dans un monde, tu ne l'as pas appris à l'école, ça, ce que tu vas faire.
Oui, ça c'est une chose à dire avant. Et les choses, c'est, je me remontais à ma jeunesse, les choses, c'est que j'habitais entre 9 et 11 ans en Australie. Et alors, mon anglais, ouais, c'était très bon à l'époque. Ouais. Et alors, ça m'aidait à trouver mon travail, parce que je n'ai pas eu seulement les bons profils académique, sinon que je parlais bien l'anglais. Et
oui,
ça, c'était vraiment évident.
Dans
et alors, ça
oui.
m'a aidé. Et en fait, mon chef m'a choisi pour ça. Voilà. Il y avait plusieurs candidats, mais mon anglais, c'était bon déjà. Et au niveau de travail, et c'est vraiment pour un gamin de 25 ans, c'est vraiment on fait naître dans le monde, parce que moi, je viens d'un pays qui est un peu au bout du monde.
Oui, même c'est, que, même c'est assez loin. C'est, ouais.
Même que maintenant, c'est vraiment ouvert. C'est un pays où il y a beaucoup des immigrants et tout, voilà.
Ah oui.
C'est vraiment ouvert. Mais pour moi, c'était l'opportunité de prendre des vols pour y aller un mois en Argentine, le mois après au Vietnam, le mois après à la Corée, voilà, ça c'était des...
Mais c'est pas étourdissant ça, ou c'est pas... C'était plaisant à l'époque
enfin, non, c'était vraiment plaisant quand tu as 25 ans et tu es oui. en train de découvrir le monde, si tu dois prendre un vol tous les mois, tous les semaines, c'est rien.
Ah c'est vrai.
Tu n'es pas fatigué, c'est des choses qui passent beaucoup. Et en même temps... Et c'était une période spéciale dans la politique commerciale chilienne parce que c'était tout s'était consacré à mettre un modèle d'exportation, voilà, des services et des produits.
Et donc il y avait une démarche de l'État d'exporter des services
oui,
et des produits.
Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et parce que l'économie chilienne, c'est une économie petite. Ce n'est pas, par exemple, l'économie des États-Unis qui peut faire tout dedans. Mmh. Ou les Chinois, même les Chinois, ils vont exporter tout.
Puis le Chili exporte surtout des matières premières, non ? Enfin, du cuivre, des choses comme ça ?
Oui, oui, oui.
Plus que des services.
Oui, plus que des services. Mais il y a des... ça, c'est une bonne question. Hein, parce qu'il y a des exportations des services,
ah,
mais dans la région. Dans l'Amérique du Sud, par exemple, il y a l'exportation de services au Brésil, l'Argentine, Pérou, des pays qui sont, on dirait, voisins. Mais l'exportation naturelle typique, ce sont des matières premières et c'est pour, plutôt pour la Chine, les États-Unis. Mais aussi, il y a des plus diversifiés l'économie. Par exemple, maintenant, on voit ça dans le contexte de M. Trump. Des plus diversifier l'économie, des moins il va souffrir des chocs externes.
Oui,
et alors, ça, c'était un peu l'idée de l'époque, de diversifier vraiment les partenaires. Et c'était un peu ça mon rôle. Que moi, j'étais les conseillers du conseiller. Mais déjà... j'ai ressenti qu'est-ce que je faisais, c'était pas un travail pour normal pour quelqu'un de 25 ans.
Non. Surtout par exemple, on va prendre l'exemple de la Chine. Tu as été en Chine à ce moment-là ?
Oui, 3 fois.
Ils ont l'air mystérieux, les Chinois, et surtout en commerce.
Oui, oui.
Comment tu fais quelle est ta marge de main-d'œuvre, ta marge d'interprétation, négociation avec, quand tu as 25 ans ? Quand tu débarques avec en face de toi, tu dois voir des gens plus rompus que toi à l'exercice. Et la Chine, c'était en quelle année ça ? Il y a longtemps.
Quand on a fait nous les négociations, c'était en 2004.
Oui, bon, la Chine avait déjà l'ambition de devenir important dans le monde, ça c'est sûr.
Tout à fait.
Alors comment ça se passe ? Comment tu te débrouilles déjà pour comprendre ce qu'ils veulent, déjà eux, ce qu'ils veulent indépendamment de... Ils parlent anglais, j'imagine.
Mais oui.
Ce qu'ils veulent et où le Chili peut se situer là. Ouais.
Oui, et ça c'est original.
Et toi, tu as 25 ans, tu sors de l'école.
Oui. Non, on n'a pas discuté ça, mais c'est une autre histoire intéressante. Je sais qu'avant mon voyage en Chine avec mes collègues, mon chef, tout ça, on était une délégation de 20 personnes. Et j'avais fait des négociations avec des autres pays, Mexique, Pérou, voilà. Mais avec la Chine, c'était intéressant parce qu'il me semble que les Chinoises, ils sont trouvés, comme ils avaient cette idée de faire des exportations partout, ils sont trouvés les pays qui avait plus de négociations déjà, avec plus d'expérience. Alors, ils ont fait les renégociations parallèles avec nous et avec les Mexicains. Et c'était les deux pays qui avaient fait plus de négociations de libre-échange. Alors, pour moi et pour notre équipe, c'était vraiment un bénéfice. C'était un marché de 1500 millions de personnes. C'était énorme, énorme. Oui. Toujours, il a dit, bon, si on vend une pomme pour chaque Chinois, on est devenu riche. Ça, c'était notre objectif.
Oui.
Mais eux, ils ont choisi de faire ça parce qu'à mon avis, et à l'avis de mon chef, ils voulaient apprendre. Parce qu'on avait l'expérience déjà et il n'y avait rien. Alors, ils ont choisi, les Chinois, ils ont dit, bon, on va faire des négociations avec ces gars pour comprendre comment ça marche.
Ah, c'est vrai?
On va faire avec les Mexicains pour comprendre comment ça marche. Alors, une fois qu'on décide de négocier avec des pays plus importants de la vision chinoise, avec les Américains, l'Union européenne, on a déjà l'expérience avec les plus petits.
Ils préfèrent commencer avec les Argentins.
Ouais. Non, parce que l'Argentine...
Parce que la Chine exporte, enfin, maintenant ils sont experts, ils sont les plus grands exportateurs du monde.
Ah oui, ils sont appris avec les pays...
Avec toi.
Exactement. Non, avec la Nouvelle-Zélande aussi, c'était
d'accord.
Un peu des pays petits par rapport à la Chine, mais avec des bonnes compétences et tout ça, et bon, des partenaires confiables. Ça, c'est aussi
d'accord.
Important.
Et donc, on voit mieux le travail. Et toi, là-dedans, qu'est-ce que tu apprends ? Quelles sont tes craintes à ce moment-là on pourrait se dire, je ne suis pas à la hauteur, ou je suis, au contraire. Où est l'excitation, l'aventure, et en même temps les craintes dans ce type de travail où tu te retrouves à négocier des choses très importantes quand même, avec en plus des pays très différents, puisque tu peux passer de la Chine à, je sais pas, aux États-Unis peut-être, ou la France, bon.
Oui.
Supportes la charge de travail, comment tu te transformes professionnellement
Bon, je faut être honnête, la charge de travail, à l'époque, c'était pas trop grande.
Ah, c'est vrai?
Non. Non, les négociations internationales, la plupart des choses, ce sont des diplomaties. Alors, ce n'est pas un métier qui demandent beaucoup. Et ils sont des réunions de 9 à 18 heures dans une table où la délégation, ta délégation de Saint-Denis de l'autre côté, de l'autre côté c'est l'autre délégation, on discute sur un texte. Alors il n'y a pas beaucoup de stress, il y a beaucoup de discussions, voilà. Mais à la fin, les textes, c'est quelque chose qui c'est comme une loi qu'il faut respecter. Alors ils prennent beaucoup de détails, de qu'est-ce qu'il y a ici, là-bas. Voilà, ça c'était la partie de boulot. La partie intéressante pour moi, c'était découvrir le monde avec ça. J'ai fait mon boulot très bien. Je pense que j'ai fait très très bien. Et parce que d'un côté, c'était pour faire bien mon travail. Ils me payaient pour faire ça. Mais d'un autre côté, c'était chaque chose. Par exemple, mon chef, il a remarqué ça très bien. Il a dit, bon... Tu sais, si on essaye de vendre à moins cher les récents, à les chinoises, on va générer telle quantité d'emplois. Et ça, c'est une chose que tu vois après.
Oui, 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 tu commences à voir les enjeux, là.
Exactement. Pour toi, ce sont des choses de ton travail, mais mon chef, c'était quelqu'un qui m'a marqué beaucoup à l'époque. Il était 47.
C'est ça, maintenant.
Comme moi. Mais il avait une vision plutôt sociale, parce que bon, même les gouvernements, quand je travaillais là-bas, c'était un gouvernement plutôt de gauche. Alors, les ministres, ils étaient un peu de gauche, et ses conseillères aussi, voilà. Mmh. Et de mon côté personnel, je savais déjà que j'étais dans un endroit où tous les conseillères, qui c'était des différents sujet de mon âge, junior de 25, 26 ans, il y avait tous les envies de partir à faire des études à l'étranger.
Il y avait quoi? J'ai pas entendu.
Que tous les conseillers jeunes comme moi, parce que moi j'ai travaillé pour le ministère des Finances, d'accord.
Ouais, ouais, ouais.
Mais dans les ministères des Finances, il y a plusieurs des sujets.
D'accord.
Un sujet, c'est les finances internationales.
Oui, bien sûr.
Mais il y a la macroéconomie, oui. La microéconomie, voilà. Et tous ces gens, ils donnent des conseils au ministre.
D'accord.
Qui prend des décisions. Tous ces, on dirait, ces unités de travail, il y avait un conseillère principal, d'accord, mais qui a travaillé avec une équipe de 4 ou 5. Et tous ces 4 ou 5, normalement, ils étaient très jeunes, des 25, 26 ans.
Ah oui, donc tu étais avec des gens
dans un groupe, on dirait, des 20 personnes, de mon âge, 25.
Ah oui, c'est bien.
On était, il était très bon, la plupart. Maintenant, avec des parcours, actuellement, ils ont des parcours très importants. Et tous, il y avait l'intention de partir à l'étranger, à faire des études. C'était un peu ça qui, après, nous avait lancé à l'époque à sortir du Chili, pas rester sous le monde, dans un travail très, très, très sympa. Et parce que c'était le moment de faire ça.
Ça m'amène, je vais un peu dans le désordre, je vais rester un chouïa avec Antonio parce que pour faire le lien.
Ah bah oui, le parcours.
Sur le plaisir, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu me disais, quand je parle du plaisir du travail aux gens, ils me parlent de leur travail, mais dans la particularité du travail, les gens qui travaillent avec des chevaux, ils aiment les chevaux, les gens qui font du bâtiment, ils aiment, je sais pas moi, faire des plans, etc. Et toi, tu mettais en avant... Il y a deux critères. Il y avait la qualité de tes interlocuteurs, la qualité intellectuelle, culturelle, humaine. Et puis le confort. Le confort des avions et des hôtels.
Oui.
C'est vraiment ça le plaisir de ce travail à ce moment-là. Il y a aussi, il y a aussi l'exotisme, tu en as bien parlé. Ça. Enfin, tu rencontres des Chinois, des Américains, etc.
Oui, tout à
fait. Ou le plaisir de la finance en elle-même existe-t-il?
Non. C'est évidemment que quand tu fais un travail, tu dois l'aimer. Sinon,
oui.
On a discuté déjà et on va discuter après. Et mon profil, c'est un peu atypique parce que quand je suis ennuyé dans un travail, je démissionne. Voilà. Alors, ça veut dire que
oui,
si à l'époque... Ouais. J'ai travaillé sur ce boulot, c'était parce que oui, je l'aimais quand même. Mais aussi, pour raconter la vérité, c'est qu'il y a dans tous ces types de travail où il y a des bureaucrates, je pense, des fonctionnaires, voilà, de haut niveau, il y a beaucoup de confort. Voilà, il y a des hôtels de 5 étoiles, des voyages en business class, Et voilà, et
oui, ça ajoute,
c'est un plaisir.
Ajoute au plaisir.
C'est un, c'est un plaisir. Personne ne va dire, ah non, c'est un sacrifice de travailler, faire ça. Non, 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 c'est pas
d'accord.
Non. N'importe quel pays, hein. C'est pas seulement le Chilien.
Oui, 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 bien sûr. Mm. Alors maintenant, on va, parce que vous avez des parcours assez longs, et on va aborder la transformation par différents boulots, et je vais revenir sur Laurine. Et peut-être la transformation jusqu'à un moment où vous, tous les deux, vous êtes à votre compte, solo. Enfin, solo, il y a des gens autour de vous, dans votre boulot, mais... Donc peut-être les différents endroits. Donc pour Laurine, il y a eu ce premier travail dans un secteur très intéressant, fabriquer des petites pièces pour réparer les mains et les pieds des gens. C'est, moi, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi à un moment peut-être sortir de cette entreprise et aller vers une autre, sortir de ce travail?
C'est ça. Alors, en fait, il faut savoir que j'étais en CDD à l'époque et la société avait été rachetée par une société américaine. Et donc, il y avait récupéré, le siège était en Suisse et en fait, au final, il récupérait petit à petit la technologie. Donc, c'était qu'une question de temps, en fait, avant qu'ils ferment, qu'ils finissent par fermer le
site. Achetaient, ils vous achetaient pour récupérer le savoir-faire et,
alors,
et les machines.
Ils avaient racheté la société, en fait, carrément.
D'accord.
La société avait
ouais, ouais,
été rachetée.
Oui, mais leur but à long terme, c'était pas forcément de vous garder.
C'est voilà, ça c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a mis quelques années, mais le site a fini par fermer. Ouais. Et tout
d'accord.
a été récupéré au fur et à mesure, mais ça s'est senti d'entrée de jeu. En fait, quand je suis arrivée, il y avait déjà des services qui avaient été déjà supprimés. Déjà supprimés. D'ailleurs, le premier mois où j'arrive, il y avait le grand DRH.
L'entreprise était déjà achetée ?
Oui, c'est ça. Quand je suis
arrivée.
T'es arrivée
à ce moment-là ?
Je suis arrivée après. Ouais, c'est
d'accord,
ça. Donc,
okay.
Il y avait déjà un peu une drôle. Une drôle d'ambiance, on va dire. Enfin, des services avaient déjà été fermés. Et donc, il y avait le grand DRH qui était là. Et donc, j'avais mes collègues qui me disaient « Oh là 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 là, ça sent pas bon. » Et moi, premier mois de job, optimiste. « Mais non, pourquoi ? Ça veut rien dire. » Oui, c'est annonce. Voilà, c'est ça, naïveté. Voilà, très créé. Ouais, on va dire naïveté. Voilà,
enfin bon, naïveté ou
voilà.
pas, mais ce que je veux dire, l'inexpérience.
Oui, non, mais c'est ça. Parce
de la dureté
effet,
de la vie comme des entreprises.
Voilà, parce qu'il a annoncé trois suppressions de postes. Les
sur
chiffres.
Combien, sur combien de.
Là, à ce moment-là, je crois qu'il y avait encore entre 40 et 50 personnes, je crois, sur le site.
D'accord.
Mais,
il y en a trois voilà. qui partent, ouais. Ouais.
Voilà. En sachant que ce n'était pas les premiers. Donc voilà. Bon, ça fait un peu une douche froide. On dit bienvenue dans le monde du travail, ce n'est pas le monde des bisounours.
Mais c'est étonnant qu'il t'ait pris alors.
Oui, c'était surtout sur d'autres postes en fait. Ce n'était pas dans l'équipe qualité, mais voilà. C'était, je crois que c'était notamment aux achats et sur la logistique. Enfin. Bon, d'autres services concernés, mais voilà, ça a mis dans l'ambiance. Donc, au final, j'avais pas de il n'y avait pas beaucoup d'avenir sur le poste ni sur le site. Et au bout de 6 mois, en fait, j'avais fait le tour, justement, de mon poste. Donc, j'avais
fait le tour de tout ce qui était nécessaire de savoir pour travailler à cet endroit-là.
Alors, du moins, juste sur mon poste, donc, qui était de gérer les modifications, en fait.
Ouais.
Au final, au bout de 6 mois, j'avais fait à peu près tous les cas possibles et inimaginables. Donc, après, ça n'empêche que j'aidais toujours mes collègues au sein de l'équipe qualité. Voilà, j'aidais sur la gestion des non-conformités. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un produit est non-conforme, comment on le traite, etc. Sur la gestion des actions correctives. Donc, c'est justement, quand on a une non-conformité, il faut chercher la cause et donc on met en place une action corrective pour corriger la cause du problème. Donc, voilà. Donc, j'ai aussi aidé sur la production à essayer de gérer un peu ce qu'ils avaient appelé la rémédiation. Voilà, à essayer un petit peu d'optimiser, mais c'était plus des missions en fait annexes pour me tenir un peu occupée, on va dire.
Ah, carrément.
Oui, oui, oui. Ouais, ça prenait pas au moins un temps plein.
D'accord.
Et donc, au même moment, donc pendant ma première année, en fait, il y a eu une opportunité sur Brest, à Plouzané exactement, dans une start-up qui s'appelait Ostesis.
Oui, puis tu es de Châteaulin, donc.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai postulé et j'ai été prise. Donc, j'ai démissionné de mon CDD pour aller donc en CDI, cette fois pour un poste de responsable qualité et affaires réglementaires. Alors, on n'était que trois, hein, on n'était pas beaucoup, mais voilà. Et toujours dans le domaine de l'orthopédie, sauf que cette fois, c'était pour faire ce qu'on appelle des ostéotomies tibiales, c'est-à-dire qu'on, pour les gens qui ont de l'arthrose du genou et les jambes arquées, on va venir en fait couper le tibia, on va l'ouvrir en gros et mettre une cale pour,
ah ouais.
pour réaxer le poids du corps sur la partie saine du cartilage.
Ouais, c'est précis, ouais.
Voilà.
Donc, ça demande des chirurgiens aussi. Enfin, vous travaillez en oui. rapport avec l'hôpital.
Oui, en l'occurrence, là, c'était le professeur Eric Stindel, donc qui travaille toujours au CHU de Brest, avec lequel on travaillait à ce moment-là.
Alors maintenant, donc toi, tu observes le dispositif de fabrication, d'implantation aussi.
Oui, là, en plus, c'était une solution très complète parce qu'on avait donc l'implant, les instruments, mais également, ils avaient développé en fait une station de navigation avec un logiciel pour justement aider le chirurgien à placer le mieux possible l'implant.
D'accord, il était assisté dans sa chirurgie pour déplacer au millimètre près, quoi.
C'est ça, en fonction de l'angle entre la hanche, le genou et la cheville.
Et la qualité intervient où à ce moment-là? Enfin, partout, mais...
Alors, du coup, ouais, il y avait donc deux pans de mon poste. Il y avait donc la qualité qui est... Alors, il faut savoir que de toute façon, dans le dispositif médical, on est obligé de mettre un système de management de la qualité. Voilà, c'est requis. Donc, du coup, c'était mettre mon travail quand je suis arrivée, était de mettre en place le système qualité, donc de documenter nos méthodes de travail, d'apporter
ça,
des
ouais.
preuves.
Tu formalises, en fait, tout.
Exactement, c'est ça. Et du point de vue vraiment global de l'entreprise, que ça soit sur d'un point de vue de la direction, DRH aussi, comment on embauche, voilà, tout ça c'est demandé, de la formation.
Jusqu'au chirurgien, non?
Et oui, jusqu'à, ah oui on a la conception et le développement, la production, jusqu'à tout ce qui est affaires réglementaires, donc ce qu'on fait pour obtenir ce qu'on appelle en Europe, par exemple, le marquage CE, c'est l'autorisation de mise sur le marché, souvent ça parle un peu plus. Donc tout ça, oui, faut le documenter et ça, on le fait à travers le système qualité.
D'accord. Bon, là, on voit, là, on rentre. Moi, ça me semble passionnant. Là, je regrette d'avoir été mauvais à l'école quand j'étais petit.
Mais ça, en fait, on le découvre pas tout de suite. Tout ça, la qualité, moi, j'ai découvert en études supérieures, en école d'ingénieur et à travers mes stages, en fait. Avant, on n'en parle jamais de cette discipline-là, qui est vraiment de l'organisation. Et bien sûr, d'entrée de jeu, souvent, c'est une contrainte quand on dit « il va falloir que tu te documentes ».
Oui, il faut bosser, ouais, ouais.
Voilà,
faut être au courant.
C'est là où c'est important, où quelqu'un qui fait de la qualité correctement doit mettre en place les choses pour que ça soit utilisé, que ça soit adapté aux méthodes de travail des gens. Puisque, comme je disais, la norme ne dit jamais comment il faut faire.
Oui, oui, toi, tu es en contexte très précis, ultra précis, quand il s'agit de mettre un bout de fer dans le genou d'une
ouais.
vieille personne.
C'est ça, exactement. Et l'autre pan, les affaires réglementaires, donc quitte la qualité, on est très sur l'entreprise un peu globalement, enfin on est sur chaque service de l'entreprise, quitte les affaires réglementaires sont beaucoup plus axées en fait sur le produit puisqu'on est dans le cadre des autorisations pour mettre sur le marché. Donc là on fait notamment ce qu'on appelle la documentation technique en Europe, donc là on va vraiment documenter toute la vie du produit, comment il a été conçu, comment il est fabriqué. Une fois sur le marché, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que ça ne s'arrête pas là, il faut gérer tout ce qui... S'il y a des problèmes avec le produit, ce qu'on appelle aussi des incidents, ah bah, mon patient a été blessé, mon utilisateur a été blessé, ou peut-être même mon patient est mort, peut-être à cause de mon dispositif. Donc voilà, tout ça, ça se documente et c'est là où il faut... mettre à jour peut-être certaines choses sur le produit et voilà, on est sur ce pan-là du coup. Et il y a des normes du coup à respecter, par exemple sur de la sécurité électrique, il y a des normes spécifiques sur de la compatibilité électromagnétique ou tout ce qui est biocompatibilité pour mon implant, je ne peux pas mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur des patients et voilà.
Ça semble passionnant. En même temps, ça peut être difficile parce que du coup, tu viens normaliser à tous les sens du terme. C'est-à-dire, tu peux dire à quelqu'un, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça.
Ah oui, oui, ouais. C'est un peu la police, ouais, ouais, ouais. Ou
c'est
alors.
C'est pas facile de dire ça à quelqu'un.
Alors il faut beaucoup de diplomatie. On en parlait tout à l'heure, mais c'est là où il faut amener les gens avec nous dans la démarche, en fait, et que de toute façon, si les gens ne le font pas. Derrière, il y a quand même ce qu'on appelle un organisme notifié pour certains dispositifs médicaux. C'est lui qui délivre le certificat de marquage CE. Et c'est lui qui va dire si oui ou non c'est conforme en fait, ou avec les résultats, etc. Donc les affaires réglementaires sont là pour dire il faut suivre telle et telle norme, respecter la biocompatibilité, etc. Et donc oui, c'est l'accompagnement des équipes techniques, notamment en R&D, pour leur dire attention, on a ça, ça fait partie des données d'entrée, on a ça à respecter, vous pouvez pas... Enfin, c'est très libre, mais d'un autre côté, attention, il faut qu'on ait ça comme résultat conforme. En fait, voilà.
Du coup, tu travailles assez près de la direction, alors
Dans la start-up, là, Ostesis, en effet, comme on n'était que trois...
Trois, la direction, c'est...
Voilà, c'était le
trois,
président.
Trois, il y a quelqu'un qui fabrique la pièce, il y a quelqu'un qui regarde comment il fait.
Alors, en gros, c'était le président gérer la partie conception mécanique. Il y avait un ingénieur développeur niveau pour le logiciel. Et donc, il y avait moi, après, sur la qualité, les affaires réglementaires.
D'accord,
donc,
l'implant,
oui.
C'était une personne, le logiciel, c'est une autre personne. Et toi, tu les regardais faire et tu
leur
disais
voilà,
ce qu'il faut faire.
Oui, voilà, voilà. On peut simplifier comme ça, oui.
Et ça peut être l'enfer à trois, ça peut être génial aussi, c'était sympathique.
Oui. Non, c'était très sympa. Alors, c'est vrai que c'était au début un peu difficile dans le sens où, comme dans ma première société, voilà, il y avait 40, 50 personnes, j'étais au sein d'une équipe. Là, pour le coup, c'était... Bon, on n'était que trois. Heureusement, on s'en sentait bien parce que sinon, ça aurait pu être vite compliqué sur les relations, en effet. Mais non, heureusement, ça se passait bien.
Et tu as quand même quitté cet endroit où tu faisais un boulot, moi qui me semble passionnant, hein. Et après ce boulot-là, c'est là que tu t'es mis à ton compte, c'est ça ?
Alors, je l'ai pas quitté par plaisir. Non, en fait, c'était un projet assez conséquent.
Ah, t'étais sur un projet ?
Ben, c'était le projet de l'entreprise de mettre ce produit-là sur le marché, sauf que c'était très, très conséquent, ça coûtait très, très cher et malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, donc on a été licencié pour motif économique. En fait,
ah,
voilà.
D'accord, dommage.
Le monde du travail n'est pas le monde des bisounours. Et comme en fait, je n'avais pas beaucoup d'expérience quand je suis arrivée, j'avais une consultante en fait qui m'aidait, voilà, que je pouvais lui poser des questions, qui m'orientait pour justement pour l'application de certaines normes. Et ben, elle m'a embauchée du coup derrière en tant que consultante. Et c'est comme ça en 2016 que je suis devenue consultante.
Précisons que tu ne travaillais pas dans son bureau, tu travaillais à distance, là.
Voilà, c'est
donc
ça.
Donc, elle t'a initié au travail solitaire.
Exactement.
Et elle t'a encouragé à le faire. Parce que t'as...
Voilà, c'était le cas parce que je ne pouvais pas déménager de Brest pour des contraintes familiales. Et sauf que la consultante, son entreprise était à Cognac. Et donc, en effet, c'était le télétravail qui a
D'accord.
été initié.
Alors, on ira sur la deuxième partie de l'entretien. je reviens vers Antonio. Là, on a vu déjà un aspect de ton travail. Et après, je ne sais pas quoi prendre. Ton parcours est tellement long et riche. Tu es passé par les États-Unis pour faire une formation. Mmh. Là, tu as rencontré des gens du FMI, c'est ça ?
Tout à fait.
Et tu as aussi été à l'OCDE. Mmh. Peut-être on peut prendre... Tu as fait plusieurs boulots, là. On peut en prendre... Rentrer dans un... On a déjà eu le premier travail, rentrer dans un deuxième travail, et en insistant sur les passages de l'un à l'autre, les raisons pour lesquelles tu te permets de quitter des boulots aussi intéressants, et tes motivations de départ et surtout attiré par autre chose, peut-être. Comment ça se passe, et puis peut-être creuser peut-être sur l'OCDE, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit. Mais...
Mmh. Bon, très bien. Bon, oui, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de temps déjà.
Et après, on ira à la fin, c'est bien qu'on arrive au moment où tu vas devenir travailleur solitaire.
D'accord, bon, je vais faire rapidement parce qu'ils sont 20 ans déjà. Hein, j'ai quitté le Chili en 2005. Et pour faire mes études à l'étranger. Et c'était un doctorat en économie aux États-Unis.
C'était donc après le travail que tu avais déjà fait.
Oui, tout à fait.
Ouais, okay.
Après les ministères de finances, c'était en 2005. Et alors, j'étais un étudiant de doctorat, voilà, en période. Et les doctorats aux États-Unis sont 5 ans. Et au milieu, j'ai eu une crise vocationnelles ou des motivations. Et l'Université de Maryland, il a l'avantage que c'est dans la région de Washington, D.C., où sont toutes les organisations internationales. Et alors, un jour, il est arrivé à l'opportunité d'un travail comme économiste junior.
Tu étais en train de faire ta thèse, il y a une opportunité de travail. Donc.
J'étais au milieu, juste du bout de ma thèse. Et je me suis dit, bon, je vais envoyer mon dossier, mon CV pour voir comment ça passe. Bon, on reçoit l'appel, je voulais l'entretien, j'ai ressenti que ça vient passer. Et après, le même jour, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, bon, oui, on pouvait offrir un CDD de 6 mois.
Ça supposait d'interrompre ta thèse.
Oui.
Pour un bon élève, c'est pas très sérieux.
Oui, mais les choses, c'est que j'avais une crise. Je voulais une pause pour savoir si ça valait la peine ou pas. Parce que moi, ça, c'est une chose qu'on a discuté avant. Moi, j'ai décidé de faire un doctorat parce que je voulais avoir les jobs de mon chef au Chili.
Ah oui, ça faisait partie du CV minimal.
Exactement. Et lui, il était docteur dans une bonne université américaine. Et moi, je me suis dit, bon, si je veux le travail de mon chef...
Et faire comme lui.
Il faut faire comme lui. Et je faisais comme ça. Mais c'est vrai qu'un doctorat, ce n'est pas pour ça. Un doctorat, c'est pour quelqu'un qui aime bien faire la recherche.
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai eu des doutes à l'époque. Et je me suis dit, bon, je vais faire une pause. Et c'est comme ça que je suis arrivé, ou je suis rentré au FMI, pour une période de 6 mois. Je me suis dit, bon, je fais une pause.
Et tu faisais quoi, là?
Au tout début, j'étais assistant de recherche, on dirait. Je faisais des tableaux en Excel, des figures, des choses simples. Hein, pas la grand-chose.
Sur des pays?
Sur des pays du Caraïbe. C'était pour les Caraïbes. Alors,
les Caraïbes.
Oui, Caraïbes.
Caraïbes.
Désolé mon accent. Mais pour les Caraïbes. Et alors, après 6 mois, bon, j'ai fait très bien mon travail. Et alors, mon chef m'a dit, bon, tu veux continuer avec nous? Bah oui. Bon, et ils m'ont offert un CDD de deux ans.
2 ans de plus.
D'accord. Et comme j'ai continué à faire bien, j'ai adoré mon travail. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup à l'époque pour 50 heures par semaine.
Ah oui, c'est beaucoup.
Même les dimanches, il n'y avait pas de jour de férié. Et moi, j'ai aimé ça. Et j'ai eu l'opportunité de faire des missions, les missions qui font des voyages, et qui font les FMI pour évaluer les pays membres. Et j'ai devenu un économiste junior, voilà. Et pour des petites îles dans les East, de l'Est du Caraïbe.
Oui, à côté de la Guadeloupe.
Tout à fait. J'étais à l'île de la Dominique. À la Dominique. Bon, je fais des voyages après en Jamaïque aussi, que c'est les grandes Caraïbes. mais oui. Et ça, c'était un peu et une grande motivation.
Mais là, le travail, tu es pour l'UFMI, donc tu as de l'argent, enfin ton organisation a de l'argent, qu'elle donne ou qu'elle ne donne pas à des pays endettés, qui vivent en plus d'exports de bananes ou des choses comme ça. Et toi, tu dois évaluer ces gens. Ça, où est le plaisir et où est la difficulté,
Bon.
Et la compétence.
Oui, bon, la première chose à dire, c'est que l'UFMI, la qualité des ressources humaines, c'est très haut. Hein. Et 90% de gens, ils ont un doctorat et des bonnes universités. Alors, ce sont pas des... C'est très difficile de rentrer. C'est aussi difficile que faire un doctorat à Harvard ou à Princeton ou à Columbia. C'est très difficile. Alors, j'ai eu la chance de rentrer.
Oui, c'est sûr.
Une fois que je suis là-bas, la motivation, c'était d'apprendre de tous ces gens qui, je retrouvais qu'ils avaient une grande connaissance.
Ah oui.
Et pour mon boulot, contrairement à ce qui se passe, qu'il n'y a pas la bonne réputation au FMI, je trouvais que pour cette petite île, on était une sorte de conseillère. Parce que ce sont des pays, des 50 000, 100 000 personnes, et qui n'ont pas assez de ressources humaines pour gérer une économie.
Aujourd'hui, ils sont
75 000. Et ils dépendent beaucoup des organisations internationales comme l'FMI et la Banque mondiale aussi.
Donc, tu n'exerces plus ton travail, là, comme, enfin, tu ne le conçois plus de telle façon, pour, comme évaluateur ou juge ou notateur, enfin, celui qui va noter, donner une note à une dette ou quelque chose comme ça. Mais tu le vois comme un conseiller qui va aider l'île de Dominique.
Les Dominiques, oui. Il y a ce qui n'est pas les Dominiques. Mais les choses, c'est qu'il y a deux parts de travail au FMI. Un, c'est l'émission régulière qui s'appelle l'article 4. Et voilà, et là-bas, on fait une évaluation de comment ça marche l'économie et on dit, bon, vous devrez faire ça, ça, ça pour améliorer. On viendra l'année prochaine, dans 12 mois.
Oui, t'es prescripteur, 12 mois. Là.
Ça, c'est la partie conseillère. Quand les pays ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont des problèmes de macroéconomie, financiers, des budgets, voilà, ils vont au FMI parce que sortir à chercher la même, l'argent pour payer ses dettes au marché international privé, c'est beaucoup plus cher. La partie négative de ça pour les pays, c'est que, bon, oui, le FMI, il donne l'argent, mais à des taux beaucoup moins élevés.
Oui,
mais,
que le marché privé, oui.
Oui, mais ils te disent quoi faire.
Ça, en Grèce, on a vu le résultat en Grèce, par exemple. Ça a été une violence terrible.
Oui, c'est ça. Ils te disent déjà, bon, il faut couper les budgets sociaux, ça, ça, ça.
Et ça, ça ne te posait pas de problème à toi?
Moi, je ne travaillais pas spécialement avec ces types de pays compliqués, d'accord. Parce que moi, j'étais jeune encore. Ouais. C'était les Caraïbes, c'était tout cool. et en fait, ils se sont posés pas beaucoup de questions parce qu'à la fin, ils ont besoin de ces types de pays, économie très petite, très faible, parce que spécialement aux Caraïbes, il passe un ouragan et il détruit toute l'économie. Tous les pays partent seuls. Ouais, alors, ils vont toujours au FMI parce que malheureusement, ils sont au milieu de tous ces phénomènes climatiques. Ouais. Et alors, ils ne se posent pas beaucoup de questions. Et ils sont que les gens, ils voulaient aider. Et ce n'est pas la discussion qui passe entre les FMI et les grands pays. Ou des pays de taille moyenne, où il y a déjà des gens avec des grandes compétences dans ces pays, qui disent « Ah ben non, on ne va pas faire ça, non. » Et nous on y va pour indépendance.
Ah oui, tu viens vraiment comme expert, mais comme expert compris par eux, comme quelqu'un qui vient avec quelque chose qu'il sait faire et qui va être utile à leur pays.
Ouais. Oui, on a, à la fin, après, j'ai passé trois ans là-bas. Mon sentiment, c'était que dans la même région, les Caraïbes, et que les gens, les fonctionnaires, la ministre de Finances, même les présidents, ils trouvaient que les gens de FMI, c'était sympa pour eux. C'était pas les méchants qui viennent à dire « bon, il faut forcer ça, ça, ça ». Non, d'accord. C'était une chose comme ça. Et, ouais.
Non, mais là, on est encore rentré dans un autre aspect de ton travail. On aimerait aller plus loin. Mais... est-ce que tu pourrais maintenant... rapidement faire les étapes qui t'ont conduit à travailler hors institution comme expert indépendant ou enfin à travailler seul quoi, parce que là tu travailles seul aujourd'hui
Oui.
Mais c'est peut-être un peu long mais prendre peut-être des éléments clés qui ont amené à ça et au fur et à mesure peut-être avant d'aller là pour finir sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu as appris dans ces trois ans là, en bossant pour Dominique, l'île Dominique?
Bon, et comme j'ai dit...
Et pourquoi tu es parti aussi?
Oui. Non, c'était complètement différent hein, parce que même si c'est dans les mêmes continents et les Caraïbes, c'est vraiment différent de où je viens. La culture...
De l'Amérique du Sud, oui.
Tout complètement différent. L'expérience de travailler au FMI avec des ressources, des gens avec des ressources mondiales de haut niveau, c'était enrichissant pour quelqu'un qui aime bien apprendre toujours.
Ouais.
Ça, c'était un peu pour fermer, on dirait, les sujets FMI. Pour faire la transition à où je suis maintenant, je fais rapidement. Mais après, quand tu as dit, je travaillais à l'OCDE en 2011, en 2016, j'étais conseillère là-bas. Pour les ambassadeurs chiliens auprès de l'OCDE. Et c'était un travail qui est rassemblé au qu'est-ce que j'ai fait au FMI, mais d'un autre côté. Parce que moi, j'ai travaillé un peu pour les comme staff, je veux pas dire. J'étais un peu, mon rôle, c'était de vérifier qu'est-ce qu'ils ont fait les gens qui travaillent dans l'OCDE. C'était pour les, comme tu dis, les bureaux. Voilà. Ouais. Il y a les bureaux, les organisations internationales, il y a les bureaux où ils sont tous les pays représentés par quelqu'un, un ambassadeur ou quelqu'un. Ouais. Et il y a les gens qui travaillent pour l'organisation.
D'accord. Voilà.
Au FMI, j'ai travaillé pour l'organisation comme économiste. À l'OCDE, j'ai travaillé pour les bureaux comme conseillère de l'ambassadeur du Chili auprès de l'OCDE. Alors, d'accord. Mon rôle, c'était plus de regarder la documentation, vérifier qu'est-ce qu'ils ont fait mal, représenter le Chili auprès de l'OCDE. Voilà. Et ça, c'était en période de 5 ans. Évidemment, mon travail au FMI, c'était beaucoup plus intéressant qu'à l'OCDE.
Ouais. Là, tu n'es même plus dans la finance. Enfin, un peu dans la
finance. C'était un peu les mêmes domaines. Je transitais... mon parcours, c'est un peu atypique.
On va pas le suivre dans le détail, ça va être trop difficile.
Ouais, mais au FMI, j'étais macroéconomiste.
D'accord.
International, toujours international. Ça, c'est les autres choses qui se continuent. Et après, c'était plutôt des diplomates, mais avec une connaissance des macroéconomies aussi.
D'accord.
Voilà.
Mais je me souviens que tu disais que tu as fini par t'y ennuyer ou à trouver...
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a des réunions d'une semaine où ils parlent beaucoup des choses qui, si tu n'es pas un expert, tu t'ennuies. Franchement.
D'accord, ouais.
Et ce sont des réunions qui, franchement, ils pourraient être de 2 jours.
Ah oui, réduire la... Ouais.
Ouais, non, mais il est fait un exprès long comme ça.
D'accord.
Il y a des gens qui viennent de tout le monde et venir à une réunion pour 2 jours, des fois, ça ne va pas la peine. Les personnes qui viennent d'Australie pour 2 jours.
Oui, ils amortissent le coût de l'avion.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Et donc, tu as quitté ce travail. Après, il y en a eu plusieurs, mais...
Après, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de rentrer au Chili. J'ai travaillé pour la Banque Centrale Chilienne, dans les domaines de...
Pour la Banque Centrale, oui.
Oui, ouais. Dans les domaines de stabilité financière. D'accord. Et ça, c'était en 2017.
D'accord.
Et entre 2017 et maintenant, je suis un spécialiste dans les domaines de bancaire. Voilà.
Voilà, si je résume tout ce parcours énorme, tu as donné une expertise vraiment très forte. Et c'est ce que tu vends aujourd'hui ou c'est ce que tu proposes en tant qu'individu expert, c'est ça?
Oui, tout à fait. Je pense que chaque chose que j'ai fait dans mon travail et tout, voilà, c'était la conséquence de ce que j'ai fait avant.
Oui, oui.
Voilà.
Oui, oui.
Alors, si tu me poses la question, comme tu es arrivé à devenir un consultant financier maintenant, c'est parce que j'ai retrouvé des copains à l'école polytechnique Julien, tu vois. Pourquoi tu es devenu un diplomate à la OCDE? C'est parce qu'à l'époque, mon chef du ministère des Finances, mon premier travail, c'était l'ambassadeur. Après,
d'accord,
ils sont passés des choses. Le message ici, c'est que si tu as fait bien, si tu as fait des bonnes études, si tu as fait bien ton travail, si tu es en pas, quelqu'un
important,
ouais, et tu n'es pas arrogante, ça c'est une chose importante.
Tu n'es pas quoi?
Arrogante.
Arrogant,
ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se croient qu'ils sont passés des choses.
Oui,
ouais. Ouais,
ouais. Enfin, partout, il y en a. Ouais. Des fois, moins les gens sont compétents, plus ils sont arrogants. Oui.
Ouais. Des opportunités vont arriver.
D'accord, ok. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Donc, on se reverra la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra comment, justement, on va voir la transition vers d'un travail au sein d'une institution, au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise, à un travail seul. Comment on s'organise et comment la cantine numérique arrive à ce moment-là comme support bien utile. Donc, au revoir Antonio, au revoir Laurine.
Merci, au revoir.
Oui, merci beaucoup.